La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons reprendre notre cycle qui dure depuis si longtemps, ce cycle qui consiste à aller voir ce qui se cache derrière les titres des morceaux de jazz. Nous vous rappelons que nous avons déjà parcouru tout le dictionnaire.
Et que maintenant, on s'occupe des suppléments.
Voilà, vous savez, le fameux littré, il y a un supplément. Et quand les érudits autour d'une table décident de s'y référer, qu'ils trouvent rien, qu'il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah, c'est peut-être dans le supplément ». Nous avons fait quelques trouvailles.
Par exemple, ce blues « In the cave ». On me dirait, c'est un peu du franglais tout ça.
Pas étonnant.
Et oui, car ça se passe en France.
Oui, ça se passe même dans le 6e arrondissement, près de Saint-Sulpice. D'ailleurs, c'est un endroit où nous passions devant quand nous étions petits, puisque l'autobus qui nous emmenait au lycée passait par la rue du Vieux-Colombier. Il s'agit
du fameux club du Vieux-Colombier. Alors, c'était un endroit particulièrement enfermé, si on peut dire, puisque c'était une cave grande, mais dont l'aération était uniquement l'escalier.
Oui, il n'y avait aucun soupirail, il n'y avait rien. C'était une vraie cave, pure et dure. Et là, se sont succédés, pendant pas mal d'années, les plus grands noms de la Nouvelle-Orléans. Ça a commencé autour de 1950, je crois, un petit peu avant peut-être.
Et on vous disait qu'il n'y avait pas d'aération. Alors, je ne vous dis pas comment c'était, parce que les gens fumaient aussi. Donc, la chaleur plus les fumées de cigarettes, Sidney Bechet, il en avait même parfois tellement assez de cette atmosphère confinée et chaude qu'il allait se réfugier près de la glacière.
Oui, il passait derrière le bar et hop, il s'asseyait à côté de la glacière. Ses collègues se contentaient, pendant les pauses entre les séries, de se précipiter dans la rue pour respirer un peu. Oui. Le bon air du 16e arrondissement. Remarque, juste à côté, il y a la caserne des pompiers. Alors,
oui, oui, bon.
Nous allons donc vous faire écouter un morceau directement inspiré de ce lieu. Ça a été composé par Sidney Bechet, ça s'appelle
Blues in the Cave.
Naturellement. Sidney Bechet est entouré de l'orchestre de Claude Luther, c'est encore l'époque juste après les fameux Lorientais. Et c'est lui qui met en place le morceau avec sa voix de vieux sage. Il dit au trompettiste tu feras ci, au clarinettiste tu feras ça, au trombone tu feras ça, première, deuxième voix, tout ça, il met ça en place. Et après le blues commence. Nous vous laissons donc en tête à tête avec le maître et ses disciples.
Now boys, I want you all to gather around me. I want to show you how easy it is to play a blues, a different blues. But in the meantime, you'll stay right with the blues melody. And we're going to call this blues, Blues in the Cave. Pierre, I want you to take your trumpet and play this melody. You hear that melody? Claude, play the second part. Guy, you take your trombone, play the second trombone part. Roland, take the bass part, but look out now for the changes. Moustache, just brush it away. That's what I mean. Now, Christian, you take over while I get my soprano.
Thank you.
Le morceau suivant, c'est Jimmy Forrest qui va jouer un blues avec un titre bien particulier puisqu'il s'agit de Bolo Blues. Alors Bolo Blues, je vous dis tout de suite, ne rencontrez pas quelqu'un qui a en main des bolos.
Oui, parce que c'est un outil qui sert en fait à la fois à étrangler et à assommer. C'est une sorte de corde sur laquelle sont enfilées des boules de plomb ou de métal très lourd. C'est dérivé du fameux lasso des gauchos, tu sais, dans la pampa. C'est un outil d'Amérique du Sud, ça. Et je ne sais pas du tout pourquoi Jimmy Forrest, ce grand saxophoniste ténor, a eu besoin d'évoquer le bolo, peut-être, lors d'une tournée exotique. S'est-il trouvé confronté à ce genre d'ustensile ? Toujours est-il que c'est un blues magnifique et que nous n'avons pas résisté. Bizarre, l'aube.
Ah bah oui, alors ça, C'est une danse d'origine africaine, une imitation animalière. Il s'agit, buzard, de la danse du buzard, où on imite, avec les bras écartés, le pas soi-disant élastique du buzard.
Je me demande si c'est pas plutôt une buse, car il me semble que cette danse se dansait en décrivant des cercles.
Tout est possible.
Voilà, parce que si vous avez vu dans nos contrées chasser un buzard, vous savez qu'il se balade tel un avion en papier au ras des blés ou au ras des herbes, tandis que la buse, elle a un gros vol.
Un
peu pâteau, un peu quelconque, et tourne en rond, contrairement au Milan Royal de nos régions, qui est un magnifique voilier.
Donc on vous laisse absolument choisir, buzard ou buse, au choix.
Au choix, de toute façon, nous ne vous passerons pas ornithologie après ce commentaire. Alors, buzzarlope, c'est donc cette danse animalière. C'est un tempo assez lent, d'ailleurs, ça nous renvoie au vol de la buse. Et c'est joué par Ike Quebec, qui était un autre saxophoniste ténor. Tout à l'heure, on a entendu Jimmy Forrest qui jouait superbement le blues. Vous allez voir que Ike Quebec pouvait en faire autant.
Bye.
Et maintenant, figurez-vous une sorte de décor de western.
Avec, dans ces pierres rouges qu'on voit souvent, un château qui apparaît. Mais en réalité, il n'est pas du tout construit. Il ressemble naturellement à un château, c'est tout.
Vous savez, c'est ces énormes rochers qu'on voit dans les aventures de... Alors de qui Hopalong Cassidy. Buffalo Bible.
Buck John
et autres westerniens, eh bien là, ça a la forme d'un château fort et la petite ville qui s'appelle à côté s'appelle Castle Rock à cause de ça.
Évidemment.
Et un beau jour, le saxophoniste alto Johnny Hodges, étant passé par là, a composé un morceau.
Comment dire, en l'honneur de cette ville.
Il avait apprécié quelque chose là-bas. On ne sait pas trop quoi. Avec Hodges, tout était possible. Mais il a confié l'exécution de ce morceau à son saxophoniste ténor, Al Sears. Donc vous allez avoir une nouvelle fois un fabuleux saxophoniste ténor pour vous tenir compagnie. Castle Rock. C'était quatre blues à la suite l'un de l'autre. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu tellement le blues peut être varié. Les trois derniers blues étaient tous les trois au saxophone ténor et je vois que Pascal a donné sa préférence au dernier que vous avez entendu.
Oui, mais il était à la fois léger, original, à la fois punchy et retenu, c'était bien.
Voilà, donc vous noterez que Pascal a un faible pour l'orchestre de Johnny Hodges, dont elle a d'ailleurs connu pratiquement tous les musiciens, et en particulier le saxophoniste ténor Al Sears. Et maintenant, nous allons quitter le blues et les souffleurs. Voici un pianiste et voici une ballade.
Vieille ballade du 15e siècle, et c'est écossais. Et non seulement c'est écossais, mais c'est une histoire de deux familles ennemies, les Percy et les Douglas, qui ont des propriétés jointives. Et bien sûr, comme ils sont ennemis, la frontière provoque de terribles frottements.
Oui, parce qu'il faut vous dire que ce n'est pas seulement la frontière entre deux propriétés, c'est la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse.
Alors je vous dis, oui.
C'est conséquent. Et figurez-vous qu'un beau jour, Percy du Northumberland, donc du côté sud, et anglais, a eu l'excellente idée d'aller passer 3 jours à chasser à court chez Earl Douglas, l'Écossais, qui était donc limitrophe.
Et ça n'a pas plu.
Non, parce qu'il n'avait pas demandé la permission. Alors ça a ravagé totalement le contexte, d'où cette balade, qui d'ailleurs, d'après les érudits, fait également allusion à une bataille anglo-écossaise qui n'a aucun rapport. Mais ça, vous vous en fichez, nous aussi. Et voilà.
La traduction de Chevy Chase, c'est la poursuite.
Ah oui, la poursuite acharnée.
Oh oui.
Oui. Tout ça est naturellement confié à un homme qui a une mémoire d'éléphant, parce que pour avoir des souvenirs remontant au 15e siècle, il faut déjà avoir vécu très vieux et avoir une sacrée belle mémoire. Et c'est Willie Smith le Lion, dans justement un disque qui s'appelle Les Mémoires de Willie Smith le Lion.
C'est intéressant, cette culture qu'ont les Américains par rapport à notre culture européenne. Il ne faut pas oublier que les Américains sont formés pour une bonne moitié, je parle historiquement, d'Européens. Qu'ils ont récupéré, par exemple, la danse country, c'est des quadrilles européens. Et qu'ils ont, surtout quand c'est quelqu'un comme par exemple Willie Smith the Lion, ils ont vraiment une culture européenne tout à fait à part égale, je dirais, chez les Américains cultivés, à part égale avec la culture américaine proprement dite qui s'est créée peu à peu.
Oui, d'ailleurs, dans l'exemple que tu donnes, je crois me rappeler que Willie Smith avait été adopté par une famille extrêmement cultivée. Et d'ailleurs, il avait lui-même une culture classique musicale très importante. Et il disait toujours, si vous voulez une bonne main gauche, travailler Bach.
Vous voyez ?
Voilà. Et puis quand le lion avait dit quelque chose...
Tout le monde disait Amen.
D'ailleurs, je vais te poser immédiatement la fameuse devinette du lion. Là, tu n'avais pas intérêt à répondre à côté. Combien y a-t-il d'accords diminués ?
Je crois qu'il y en a 3.
Eh bien voilà, tu as bien fait de répondre ça, parce que sinon, on coupait le micro tout de suite.
Ouh, je l'ai échappé belle !
Oui. Il y a dans le jazz des morceaux de bravoure, plutôt des morceaux qui ont tellement marqué que... On travaille dessus, on aime bien les reconstituer, en faire des exercices. Et un des morceaux les plus connus dans ce genre, c'est le fameux Cornet Chop Suey de Louis Armstrong, qui a vraiment été le point de départ de tout un mouvement. Et bien longtemps après, sur la côte ouest, dans un orchestre de New Orleans Revival, comme on disait, celui de Turk Murphy, le clarinettiste, qui s'appelait Bob Helm, s'est mis en tête de jouer ce morceau, qui est un morceau de trompette.
Ah oui, alors ça c'est une nouveauté quand même.
Et comme Cornet Chop Suey, c'est un calembour fondé sur l'idée d'un plat chinois, ils ont appelé ça du nom d'un autre plat chinois, une sorte d'omelette.
C'est-à-dire clarinette fouillong.
Voilà.
Bon.
Vous pouvez prendre beef fouillong ou chicken fouillong, etc. Ben là c'est clarinette fouillong. Et je trouve que le clarinettiste, il s'en sort pas mal, parce que c'est pas un morceau facile. Thank you.
le morceau suivant, le titre en est à la fois horrible et drôle.
Dear John, mon cher Jean. Mais pour qu'il y ait lettre, il fallait qu'il y ait éloignement. Donc la lettre en question était en fait envoyée à un militaire en campagne.
Ça commence comme ça, parce que c'est devenu une sorte de formulation utilisée par tout le monde pour dire « j'en ai assez de toi, je veux divorcer ». Effectivement, la lettre, c'est « Dear John, cher John, eh bien voilà, je ne m'entends plus avec toi, j'en ai trouvé un autre, etc. etc. et séparons-nous ». Et maintenant, il suffit de dire « Dear John » pour que tout le monde comprenne qu'il y a rupture.
Et il y a d'innombrables GI en campagne lointaine qui ont reçu des lettres de ce genre de la part de leur fiancé disant « j'étais assez attendu, maintenant j'ai trouvé quelqu'un d'autre » ou simplement de la part d'un sweetheart qui changeait de monture. Et ça, c'est devenu un proverbe. Tiens, tu fais une drôle de tête, t'as reçu une Dear John aujourd'hui ? C'est un morceau où nous retrouvons Ike Quebec, saxophoniste ténor, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Ce sont les hasards du dictionnaire et de son supplément. Et vous pouvez une seconde fois profiter de sa forte personnalité. Le titre suivant, Dedicated to Bob Vattel of the Ten Gallons. Que de mystère dans un seul titre.
Alors, les Ten Gallons, en réalité, c'était une boîte qui était juste sous l'Olympia à Paris.
Oui, c'était d'ailleurs dans la cave de l'immeuble que ça avait été installé. C'était un petit bar d'encens. Ten gallons, ça veut dire 10 gallons. Le gallon, c'est la grosse bouteille de 4 litres et des poussières. Et un gallon de whisky, ça pèse lourd sur le foie, croyez-moi.
Eh bien, je peux vous dire que le Bob Vattel, il se privait pas avec ses gallons.
Ah, lui, c'était le pianiste maison, à l'époque où Jackie Bayard, que vous allez entendre, l'a rencontré. Et il était réputé pour imiter Fats Waller.
En tout.
Oui, pas qu'au piano.
Il manger, avait les filles, et voilà.
Oui, et il avait une descente exemplaire. Et on disait de lui qu'il avait joué dans tous les bars de Paris et des environs possibles et imaginables. Donc, Jackie Bayard, qui est un pianiste américain et un joyeux de rille, a rencontré cet autre joyeux de rille. Ils ont passé quelques très belles soirées ensemble. Et quand Jackie Bayard a enregistré un disque très intéressant qui s'appelle Parisian Solo.
Et il s'est dit, il va falloir quand même faire un hommage.
À ce vieux Bob. Et ben voilà l'hommage. Voilà l'hommage. Je suis content de faire entendre Jackie Bayard, ça ne nous arrive pas souvent. Et c'est un pianiste très original et très intéressant.
Et maintenant, partons prendre le train.
Oui, des trains, on en a pris quelques-uns dans ce cycle à juste titre.
Ça compte beaucoup dans le blues. Hein,
énormément. Et celui-là, en plus, c'est pas un train comme les autres.
Wow. C'est un train de luxe, figurez-vous, qui s'appelle le Detroit. C'est la ville de Détroit. Hein. Arrow, ce qui veut dire la flèche de Détroit. Youh.
Oui, c'est un train d'ailleurs qui était supposé relier Chicago à Détroit en 3/4 d'heure, d'après les pubs. Mais nous avons consulté les horaires et nous sommes aperçus qu'en fait, il mettait 50 minutes.
Quelle horreur, 5 minutes de plus.
Vous me direz, par rapport aux conditions de voyage entre Clermont-Paris et dans l'autre sens,
oui.
C'est vraiment de la petite bière. Nous avons dit que c'était un train de luxe. Eh bien, c'était vraiment un train de luxe et très réputé pour sa cuisine, figurez-vous.
Oh, il y avait un délice. C'était la tourte. Au poulet et à la crème.
À la ouabache.
À la ouabache, avec un délicieux friand.
Eh bien ça, on en parlait jusque dans les trains les plus reculés. Et même un chanteur de blues s'est attaché à ce Detroit Arrow. Il s'appelle Shy Guy Douglas, c'est-à-dire le petit timide.
Et oui, est-ce qu'il racontait pas Guégué, puisque elle a profité, sa copine, une vraie coquine, hein, du fait qu'elle prenait ce train de luxe. Ben, pour trouver quelqu'un de beaucoup plus fortuné que son copain.
À mon avis, elle s'est pas fait prier pour monter dans ce train-là.
Detroit Arrow, why would you be so mean? Detroit Arrow, why would you be so mean? You are the meanest old train that a poor boy ever seen. You taking my babe away and left me standing here. You taking my babe away and left me standing here. I ain't got no one to love me, no one to feel my care. Engineer, man, don't blow your whistle. Fireman, please don't ring that bell. Engineer, man, don't blow your whistle. Fireman, please don't ring that bell. Ah, that means my pretty baby is gonna bid me farewell.
On vous a passé Dear John, hein, vous savez, la fameuse lettre de rupture. Eh bien, voilà une autre formule, pas plus plaisante finalement. C'est « Don't call me, I call you
oui. »,
ce qui veut dire « Ne m'appelez pas, je vous appellerai. »
Chez eux, c'est passé dans le langage courant. L'équivalent chez nous dans le langage courant, c'est « On vous écrira. »
C'est-à-dire qu'on est sûr qu'on n'aura plus aucun contact.
Voilà, à part, actuellement, il y a plus de 3 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. « On vous écrira. » C'est une réponse connue.
Ben oui.
C'est un peu tristounet d'évoquer ça en ce moment, mais nous allons vous passer le morceau parce qu'il est, comment dire, il a un accent un peu moins pessimiste que la formule. C'est de nouveau l'orchestre de Johnny Hodges, le préféré de Pascal aujourd'hui. Donc elle est toute contente. Et
oui.
D'ailleurs, si vous voulez de nouveau de Johnny Hodges, madame, eh bien écoutez, vous n'avez qu'à nous appeler, on vous écrira. là, comme vous voyez, au guichet du Pôle emploi américain de l'époque, ça se passe pas tout seul. Il y a même de la protestation dans l'air. Et c'est Cat Anderson qui proteste le plus vigoureusement dans le suraigu de sa trompette à la fin du morceau.
Et on peut remarquer comme ces suraigus sont pourtant incroyablement musicaux.
Ouais, c'était un...
Ah ouais, c'est un artiste, un vrai.
C'est effectivement très rare d'avoir la capacité, dans un effort aussi important, parce que c'est quand même, il faut les arracher, hein, de conserver le contrôle de sa note à ce point. Enfin, c'est le seul qui soit dans ce cas, hein, c'est le champion total de la justesse et du suraigu réuni, ce cher Cat Anderson. Que Dieu ait son âme. Voici maintenant une drôle d'histoire.
Oui, c'est une histoire de vengeance de musiciens. Vous savez, les musiciens, ils ont des vies qui ne sont pas très simples. Et en même temps, c'est des gens qui se montrent en public. Donc, ils ont souvent des égos, importants.
Et puis, c'est un village.
Et comme dans un village, eh ben, il y en avait deux qui se détestaient. Il y en avait un qui s'appelait Duff Campbell et l'autre...
Eddie Condon. Et en l'occurrence, Duff Campbell haïssait le guitariste Eddie Condon. Duff Campbell, c'était pas n'importe qui, c'était un drôle de type. Il est mort à 99 ans et demi, comme le Titien. C'était un érudit incroyable, et il avait passé son enfance à Vladivostok, puis à Shanghai, avant de s'installer en Californie. Et Turk Murphy, qui était un de ses bons amis, qui était musicien,
avait un peu pris fait et cause pour son copain. Et ils ont eu, les deux copains, une méchante idée.
Car Eddie Condon, pour une séance d'enregistrement All Stars, avait demandé à Turk Murphy de composer un morceau spécial. Le morceau est arrivé. Naturellement, Turk Murphy n'était pas dans l'orchestre de Eddie Condon. Le morceau est arrivé donc, et Eddie Condon s'est aperçu que c'était un morceau en ré bémol. Alors ré bémol, ça fait 5 bémols. Ça dépend comment vous avez appris la musique, mais généralement, le ré bémol est une tonalité après laquelle les musiciens ne courent pas trop.
Oui, c'est très difficile à jouer, en gros.
Naturellement, il n'était pas question de se dégonfler. Ils ne se sont donc pas dégonflés. Et de ce morceau enregistré, Eddie Condon a dit plus tard, « Bien franchement, l'orchestre était vacillant tout le long de ce morceau. C'était complètement casse-gueule. Écoutez-nous plutôt nous débattre là-dedans. »
Oh oui, finalement, ils s'en sont plutôt bien sortis. Parce que vous savez, un musicien qui joue quelque chose de difficile, il a toujours l'impression qu'il s'est emmêlé les pinceaux. Mais le spectateur, l'auditeur lui-même, quelquefois, il trouve pas ça mal du tout.
Non, d'ailleurs, je pense que le morceau que vous allez entendre vous conviendra sans doute. Mais si vous écoutez attentivement, vous verrez que c'est pas du gâteau, hein, du tout. Et que c'est à juste titre que Turk Murphy, malicieusement, avait intitulé ce morceau
« La vengeance de Duff Campbell ».
Nous l'appellerons plus simplement « Règlement de compte » en ré bémol. Thank you. Et pour terminer, voici un titre qui est en fait le résultat d'un calembour à tiroir, ou plutôt d'une série de tiroirs dans le calembour. Ça s'appelle...
Empty Fob.
Bon, empty, je connais, ça veut dire vide.
Et fob, c'est une petite poche que les hommes ont dans leurs pantalons et que on appelait communément gousset.
Ben oui, c'est un gousset. Mais alors où est le calembour ?
Figure-toi que celui qui a composé le morceau, il s'appelle Claude Gousset.
Claude Gousset, ah, colossale finesse. Claude Gousset, il faut le dire, c'était un tromboniste et c'était de son temps. Certainement un des tout meilleurs musiciens français. De même d'ailleurs que Michel Atenoux, qui est le chef de ce petit orchestre et qui était, lui de son côté, un des meilleurs, sinon le meilleur saxophoniste soprano. Mais où est la cascade de tiroirs ? On continue ?
Eh bien, empty fob, ça veut aussi dire vide gousset.
Ah, donc peut-être quelqu'un de l'orchestre s'était fait piquer son portefeuille le matin même, puisque le vide gousset, c'est le...
voleur, le pickpocket.
Et moi, je vois encore un tiroir de plus à ouvrir, c'est que empty fob, c'est le gousset vide. Après le vide gousset, il y a aussi le gousset vide. Et le gousset vide, ça veut dire que j'ai plus un sou. Donc, ils étaient tous plus ou moins fauchés, de toute façon, il faut bien le dire.
Et on peut rajouter que pas loin de l'endroit où ils jouaient, il y avait une rue vide gousset.
La rue vide gousset, à Paris, petite rue dans le Marais. Hein,
ouh là là, étroite et dangereuse.
Oui, et puis pleine de pickpockets, naturellement, comme son nom l'indique. Dans cet orchestre, il faut le signaler, il n'y a pas que Michel Atenoux et Claude Gousset, il y a de très bons musiciens. En particulier un pianiste qui est mort très jeune, qui était très brillant, qui s'appelait Gabriel Garvanoff.
Voilà, vous allez avoir la crème de la crème des musiciens français.
Nous sommes un peu désolés de terminer cette émission sur une touche de paupérisme, mais là, le gousset est vide. Hein. On n'y peut rien. Empty fob.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.